11h midi sur Europe 1.
Samedi en France.
William Lémergie.
Madame, monsieur, bonjour, soyez les bienvenus, heureux de vous retrouver. Alors, il faut savoir que pendant tout l'été, Samedi en France sur Europe 1 sera présente pour vous faire découvrir, et éventuellement sur la route de vos vacances, des sites qui méritent votre curiosité. 4 sites dans 4 régions différentes. Pourquoi ces sites-là ? Bah parce qu'ils sont parfois oubliés des sites touristiques traditionnels de vos guides habituels. Alors, démonstration avec Angoulême, par exemple, aujourd'hui, pour admirer un chef-d'œuvre du XIIe siècle dans cette ville, célèbre, vous le savez, pour son festival de BD. Alors, vous allez voir là un monument avec, entre autres, plus de 70 sculptures. Autrement dit, si vous voulez, c'est une BD, mais en 3D, là. Juste après, on vous présentera un autre site dédié, celui-là, à un savoir-faire français. L'héroïne de ce site, c'est une vache. Si je vous dis qu'elle est rouge, qu'elle tire la langue, qu'elle est plutôt de bonne humeur, eh bien oui, c'est elle. Elle a une maison qui lui est consacrée, c'est la maison de la vache qui rit. Alors, ça existe et c'est dans le Jura. Et vous saurez tout sur ce produit typiquement français et dont on ne trouve pas l'équivalent ailleurs au-delà de nos frontières. Après ça, c'est pas fini. Direction Albi pour découvrir des œuvres de l'enfant du pays. C'est Henri de Toulouse-Lautrec. Aujourd'hui, on fête les 100 ans du musée qui porte son nom grâce à une balade. Alors, on va l'appeler une balade lumineuse. Vous l'avez compris, ça se passe la nuit. Mais, pour commencer, là, tout de suite, direction le parc national de la Vanoise. Alors, on essaye à chaque fois, en tout cas pour le premier site, qu'il soit insolite. Et nous l'avons donc inclus dans cette catégorie. Mais si je vous dis que c'est un refuge de montagne, vous allez dire, oui, bon, ça va, un refuge de montagne, et alors ? Ben alors là, c'est stop. Parce que dans ce refuge-là, on va vous proposer quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. Il s'agit de soirées népalaises. Vous avez bien entendu, népalaises. Alors pourquoi le Népal ? Parce qu'on est quand même à quelques kilomètres de Courchevel. Hein. Et qu'est-ce qu'on y fait là au cours de ces soirées ? Alors Gavin Clément-Terruiz, qui est notre partenaire et son guide de routard sous le bras, eh ben, ils craignent pas les paradoxes, eux non plus. Alors on va tout savoir, non seulement sur le lieu, et ensuite ce qu'on y fait, avec qui et comment.
Ouais, bonjour William, bonjour à tous. Ça y est, j'ai bien compris ma feuille de route. Alors, ouais. Nous partons pour le sud-est du département de la Savoie, aux portes du parc national de la Vanoise, dans ce qui fut autrefois une bergerie à 10 km de Courchevel, vous l'avez dit, et qui a été transformée en refuge. Ça s'appelle le refuge du Grand Plan.
Oui, et quel est le rapport avec le Népal maintenant?
Ben voilà, on y vient. Ben en fait, les gardiens de refuge, ils travaillent tout l'été. Et le seul moment où ils peuvent aller en montagne faire de l'alpinisme hors saison, c'est souvent au Népal. En raison de.
Ah bon, ils sont obligés d'aller aussi loin.
Bah ouais, c'est là où c'est pas mal pour avoir le grand frisson, pour retrouver ce qu'ils aiment. Ouais. Et des liens forts sont souvent tissés avec les gardiens de refuge népalais. Et eux, c'est en été, quand il pleut au Népal, qu'ils viennent dans les refuges en France. C'est un échange.
Ah oui, d'accord. Bon, un peu qu'on connaît les échanges linguistiques. Hein,
c'est
quand
ça.
On allait en Angleterre, là, vous, peut-être pas, mais moi, oui. À nous, les petits Anglais, vous vous souvenez de ça ?
Ouais, c'est ça.
Il y a les échanges de maisons. C'est pas mal non plus. Alors, et là, c'est l'échange de gardiens.
C'est exactement ça, vous avez tout compris.
Bon, donc un gardien népalais vient au refuge du Grand Plan et là, il organise avec ceux qui l'accueillent des soirées népalaises, c'est ça ?
Exactement. Tous les vendredis soirs, entre mi-juin et mi-septembre, on est pile poil dans la bonne période, il y a une soirée népalaise qui est organisée au refuge par leur aide gardien Tej Gurung. On prononce Tej, ça s'écrit Tej, mais on dit Tej Gurung, qui est originaire du Népal.
Vous avez fait népalais deuxième langue.
15e langue. Il est originaire du Népal grâce à Isabelle et Laurent, les gardiens du refuge. On va passer une soirée népalaise.
Alors là, un site comme ça, il mérite largement d'être inscrit à notre fronton des sites insolites de Samedi en France. Alors ça mérite qu'on appelle Laurent. Laurent, le gardien, pour en savoir un peu plus. Bonjour Laurent.
Oui, bonjour.
Alors, expliquez-nous ce qui se passe pendant ces soirées népalaises, parce qu'on est très intrigués. Par exemple, est-ce que vous jouez le jeu jusqu'au bout, au point de porter des tenues népalaises, par exemple ?
Oui, ben voilà. Ben en fait, d'autres refuges, des fois, proposent des repas népalais, parce qu'il y a pas mal de Népalais qui travaillent en refuge. Mais nous, on a poussé le concept un peu plus loin. Donc, on sert en costume traditionnel népalais, effectivement.
fabriqué là-bas, tout est garanti original, hein.
Oui, ou plus ou moins sur place aussi, avec des bouts de tissu, comme ils le font eux-mêmes, hein, parce que c'est un peuple très dégourdi.
Ouais. Alors, votre collègue népalais, Tej, là, il vient chez vous depuis combien d'années ?
Eh ben, il vient avec nous, travailler avec nous depuis 2001. Ah. Ça fait déjà plus de 20 ans.
Voilà. Alors, un petit mot quand même, parce qu'on ne connaît pas tous le Népal, moi y compris. On sait peu de choses. Donc, vous commencez comment quand on est accueilli chez vous par nous présenter le pays en question, je suppose?
Voilà, ben, on commence à mettre l'ambiance, on va dire, en fin de journée, là, vers 18h. Je passe une projection de photos avec la musique en ambiance, la musique népalaise, quoi. On fait brûler de l'encens.
Ah oui.
Voilà, dans ce style-là. Et bon, on présente des objets népalais également, oui. des statuettes de Bouddha, de Ganesh, des bols qui chantent, des moulins à prière, etc. Quoi.
Mais ça, ce que j'entends là, ça me rappelle des bons souvenirs. C'est les musiques des films de Bollywood. Ça ressemble, non?
Voilà, oui, oui, oui. Bon, c'est original, mais c'est assez répétitif en général.
Oui, oui, on peut dire ça. Mais ça nous arrive à nous aussi, hein, de ce côté-ci, d'avoir de la musique répétitive. Donc il y a des objets que l'on ne connaît pas chez nous, des moulins à prière, effectivement. Et j'aime bien le coup du bol chanteur. C'est-à-dire que
oui.
C'est pas mal ça. Comment ça fonctionne? C'est avec la main, on le fait chanter en tournant?
Non, on frotte un bâton en fait dessus.
Ah, c'est ça.
Voilà, il rentre en résonance. Alors, pas mal de gens pensent que c'est pour les prières, et en fait, c'est un bol qui soigne. Donc, il y a des sonorités spéciales pour soigner le mal de foie.
Ah oui, et donc vous avez le toubib local que vous allez voir, et vous lui dites j'ai mal à l'estomac, et il tourne le truc, voilà. Et ça va mieux. C'est super, très bien.
En tout cas, ça occupe pas mal les gens, ça.
Ah ouais, ouais.
Vous êtes,
quand vous en accueillez des visiteurs comme ça, vous en accueillez combien?
On peut accueillir jusqu'à 30 personnes au refuge.
Oh. Ah, non, c'est pas le petit refuge, hein. Il y a une organisation hôtelière conséquente quand même.
Voilà, donc on peut les accueillir soit en petite chambre, en dortoir, il y a le choix.
Mmh. On vient dormir, on mange, et on vit un peu népalais, on mange népalais?
Ah ben c'est un peu le but, voilà, donc on sert le repas traditionnel népalais. Alors d'abord, on sert une soupe sherpa, et puis après le traditionnel dal bhat.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Alors, le dal bhat, dal, ça veut dire lentille, bhat, c'est le riz, donc c'est à base de lentilles et de riz.
Ah oui, c'est spartiate.
Et on l'agrémente avec un curry quand même.
Ah bon, voilà. J'ai eu peur là.
Un curry qui est relevé avec les épices et des parfums typiques de la cuisine népalaise.
Ah, très bien.
Okay. Alors, on essaie de pas trop épicer le pimenter trop fort. Hein.
Oui, je comprends.
On met le piment à côté parce que pas mal de personnes auraient du mal à supporter sinon.
D'accord.
Voilà.
Est-ce que votre copain maintenant, vous le connaissez bien, Tej, là, il parle un peu le français?
Ah oui, il parle très bien français. Hein,
ah oui.
Parce qu'il avait déjà appris un petit peu, avant de venir la première année, il avait appris avec l'Alliance française à Katmandou.
Ah oui, bien sûr.
Et puis bah, depuis le temps qu'il vient travailler avec nous, il s'est bien perfectionné. Du coup, bah, lui, il a sa propre agence de trekking là-bas qui est francophone.
Ah.
Du coup,
d'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a... je ne sais pas, une certaine correspondance entre les paysages du Népal et le parc de la Vanoise, où ça n'a rien à voir?
Ce sont de belles montagnes, les deux.
Ouais.
Les nôtres sont un peu plus modestes, malgré que depuis le refuge du Grand Plan, on voit deux Monts Blancs quand même.
Deux Monts Blancs.
Le vrai Mont Blanc que tout le monde connaît, et le petit Mont Blanc.
Celui-là, je le connais moins.
Qui est à cheval entre Courchevel et Pralognan.
D'accord. Quand on fait un séjour chez vous, ça dure combien de temps?
Il y a le choix. Hein. Certaines personnes viennent pour une soirée népalaise, des fois juste pour la soirée.
Oui, la soirée.
Voilà. Et après, bon, la plupart des gens restent une seule nuit. Mmh. Mais certains restent deux, trois nuits, temps d'explorer autour, voire une semaine.
En tout cas, à ma connaissance, c'est une expérience unique. C'est une expérience en tout cas très originale. Si ça vous intéresse, madame, monsieur, auditeur d'Europe 1 de samedi en France, eh ben, on va vous donner toutes les infos nécessaires avec Gavin Clémenté-Ruiz maintenant. Merci beaucoup, Laurent, pour cette visite rapide. Je vous souhaite une bonne fin de matinée.
De rien, au revoir, et on dit namasté en népalais.
Ah oui, namasté, bien sûr.
Namasté.
Oui, mais je me demande si on ne dit pas namasté pour dire bonjour aussi.
Oui, ça, on le dit surtout pour dire bonjour, oui. Mais on le dit aussi pour dire oui. Au revoir.
Non, non, mais Katmandou, moi, c'est ma banlieue, j'y vais souvent. Salut Laurent, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. Alors, ça coûte combien la soirée, tiens ?
Eh bien, c'est 22 euros pour la nuit et 52 euros si vous prenez la demi-pension. Donc, vraiment, ça reste une expérience. Le Paris Katmandou, le moins cher, le moins cher de France.
Ah oui,
52 euros, c'est pas mal. Et c'est ouvert de début juin à fin septembre, selon la météo, bien entendu. Et on met toutes les informations sur europe1.fr.
Je disais tout à l'heure en présentant ce site, c'est près de Courchevel. Un petit mot quand même, parce que c'est une station qui est extrêmement bien équipée sur le plan hôtelier aussi.
Oui, si vous ne voulez pas dormir au refuge, vous pouvez aussi dormir à l'hôtel Edelweiss. C'est à Courchevel-Morion, dans un immeuble des années 60, complètement looké, avec des chambres très colorées, très modernes. C'est parfait pour regarder la montagne ou faire coucou à nos amis au refuge.
Et vous verrez le Mont Blanc, puis le gros et le petit.
Exactement, 165 euros la nuit, là, si vous dormez à l'hôtel Edelweiss.
Franchement, 165 euros la nuit à Courchevel, pas cher.
Ça
hein.
Va, à partir de. Attention, il y a des modalités
non,
selon
la Courchevel, c'est assez souvent haut de gamme.
C'est un peu chic.
11h midi sur Europe 1, samedi en France. William Lemergy.
Alors, nous continuons ce samedi en France, désormais en matinée, à partir de 11h, à visiter quelques sites qui, français, hein, tout ça est en France, qui vous permettent de sortir des chemins traditionnels touristiques. Alors, si vous n'êtes pas loin de la Charente cet été, ou si vous considérez que ça vaut le coup de faire une balade là-bas, faites-le. Voici une escale qui a le mérite d'être, fraîche, calme et colorée. Pourquoi ? Direction Angoulême, et là-bas, la superbe cathédrale Saint-Pierre. Il faut que vous y arrêtez. Pourquoi ? Pour deux raisons. Une raison extérieure, parce qu'elle date du XIIe siècle, c'est quand même un monument rare. Elle a été plusieurs fois même reconstruite, et sans doute, on le dit, construite sur les ruines d'une église bâtie par Clovis lui-même. Elle a un joli clocher et une vaste coupole qui lui donne comme des airs orientaux un peu. Alors déjà ça, c'est original, vous faites le tour. Mais la surprise est à l'intérieur. Et c'est Gavin Sclémenté-Ruiz, qu'on surnomme au guide du routard son éminence, parce que tout ce qui est religieux, il connaît bien. Il va vous en dire un peu plus. Gavin, bonjour. La situation géographique d'abord.
Oui, frère William. Angoulême, c'est dans le département de la Charente. Je vous confirme. On appelle d'ailleurs ses habitants les Angoumoisins et les Angoumoisines. J'aime bien ce gentil. Voilà. C'était pour frimer un peu.
Gentil, oui, il frime. Hein.
Angoumoisin, Angoumoisine.
Non, mais il n'est pas nécessaire de rappeler à nos auditeurs ce que veut dire gentilé. Mais bon, à tout hasard, gentilé, c'est comme ça qu'on appelle les habitants d'un lieu, c'est
exactement.
Ça ? Bon, ok. Alors, on est où ?
Alors, on est à 100 km de Limoges, à l'est, et à 135 km de La Rochelle. Si vous êtes sur la route, c'est parfait. Depuis 1974, Angoulême, vous l'avez dit, est réputé pour son festival ouais. de BD et le musée qui lui est dédié, juste à côté. Mais on trouve dans le vieil Angoulême ce joyau, je pèse mes mots, du patrimoine. Sa cathédrale Saint-Pierre, qui est remarquable pour son architecture romane, datant du XIIe siècle. Ouais. On s'en aperçoit déjà de loin. Et puis, plus on progresse, plus on arrive devant. Et surtout, quand on arrive devant la façade.
Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier, la façade ?
Eh bien, alors, prenez un peu de recul. Faites attention quand même, il y a la route derrière. Mais on admire la pierre blanche calcaire. Mmh. Et puis, on regarde plus en détail. On se rapproche. Et là, on découvre toutes les sculptures. C'est plus de 75 personnages qui sont pleins. Et en relief, c'est ouais. vraiment...
C'est pour ça que je me suis permis cette astuce-là, et des personnages, bon, on est pas loin de la BD, là, mais en 3D quand même.
C'est exactement ça, exactement William. On dirait comme des pages, les pages d'une BD, mais en pierre, ou si on inverse. En tout cas, c'est un vrai chef-d'œuvre de l'art roman. Mais attendez William, c'est pas fini.
Bon, voilà, on considère qu'on a vu déjà l'extérieur, on a fait le tour de l'église, et on passe à l'intérieur, là ?
Exactement, c'est la deuxième raison de notre visite aujourd'hui, et c'est, à mon avis, l'autre trésor de cette cathédrale. Il faut entrer par la nef unique, le beau portail en bois, et on est complètement happé par les couronnes du plafond. Et là, on se croirait en Orient. On n'est plus dans les œuvres du passé, mais ce que l'on voit bel et bien est contemporain. Et c'est réalisé par l'artiste Jean-Michel Autoniel.
Autoniel, c'est celui qui a fait l'entrée de la bouche de métro du Palais Royal à Paris, hein, devant la Comédie Française.
C'est ça, avec, vous savez, ces colonnes en boule de verre de Murano, très colorées. C'est le même artiste, c'est son chef-d'œuvre le plus ancien et probablement le plus célèbre.
Oui. Alors ça mérite qu'on passe un petit coup de fil sur place. En ligne, Laetitia Copin-Berlet. Bonjour Laetitia.
Bonjour William.
Alors, vous êtes directrice du service Pays d'art et d'histoire de Grand Angoulême. C'est bien ça? Je ne me suis pas trompée sur...
Pas de problème, c'est bien ça.
Alors, à quoi ressemblent maintenant ces œuvres que l'on retrouve là? Sa matière première, c'est toujours pareil avec Antonia. On est bien d'accord, c'est le verre soufflé coloré.
C'est toujours le verre soufflé coloré, effectivement, c'est sa signature artistique. En fait, ce trésor, c'est trois salles qui se succèdent, dans lesquelles Jean-Michel Autoniel a mis en scène. C'est une scénographie, c'est une œuvre immersive. On est dans une œuvre d'art totale, trois scènes, trois salles qui mettent en exergue, en fait, quelques objets liturgiques de la collection du diocèse, mais avec la signature Autoniel, le verre soufflé, les perles de verre, les magnifiques vitraux, donc une œuvre en transparence, en couleur. On retrouve vraiment la touche artistique de Daniel.
Mais ce que vous venez de nous décrire, c'est que quand on passe la porte d'entrée de la cathédrale, on voit ça tout de suite. Donc elle fait partie intégrante, cette œuvre, de la cathédrale. Ce n'est pas à côté ou au-dessus.
Alors, elle est installée dans le bras du transept. Vous savez, c'est cet élément qui forme le bras de la croix, hein, sur le plan d'une église. Il est dans le bras sud, dans le bras du transept sud de la cathédrale. Donc, quand on est à l'intérieur, on aperçoit en fait un immense vitrail composé de plus de 10 000 pièces de verre en hauteur. Mais en fait, il faut franchir une porte et c'est là qu'on pénètre vraiment au cœur du trésor.
Oui, c'est ça. C'est pas simplement comme dans un musée. Ça reste liturgique. Ça fait partie de la cathédrale, quoi. Voilà. Alors, j'ai des photos là. C'est dans des tons bleus et or, et avec la lumière, c'est absolument magnifique, ça. Il a fait un vitrail aussi, et il y a combien de pièces de verre? C'est du verre, de l'or, du mica? Je dirais des milliers, je me trompe?
Oh non, vous ne vous trompez pas. En fait, il y a 11 vitraux, il y a 40 mètres carrés de vitraux, et le plus imposant, effectivement, il est composé de plus de 10 000 pièces de verre.
Qu'est-ce qui a eu l'idée de faire appel à cet artiste-là, et pourquoi lui?
Alors, c'est la Direction régionale des affaires culturelles, c'est l'État, puisque les cathédrales appartiennent en France à l'État, qui a décidé de faire appel spécifiquement à cet artiste, et c'est le ministre de la Culture lui-même qui l'a retenu. Il n'y a pas eu de mise en concurrence. La volonté, c'était de faire appel à Jean-Michel Autoniel. Vraiment.
C'est curieux quand on parle de séparation de l'Église et de l'État. Oui, sauf que les cathédrales, ça appartient à l'État. À part ça, tout va bien. Et lui, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Quelle était son intention avec ce trésor-là?
Eh bien, en fait, c'était de raconter une histoire. Déjà, c'était de faire une œuvre d'art donc immersive, totale, de faire le lien avec la cathédrale au moment où celle-ci a été restaurée au milieu du 19e siècle, dans un esprit néo-roman. Au moment où on redécouvre une liturgie qui est très spectaculaire, les processions, etc. Il a voulu, en fait, redonner cet aspect du merveilleux que pouvait avoir l'Église au milieu du 19e siècle, au sortir de la Révolution française, où l'Église se rebâtit, se remet en place, où on a effectivement toutes ces processions importantes, où le peuple participe. Voilà. Il a voulu faire en sorte que le visiteur se retrouve au milieu d'un véritable reliquaire et qu'il retrouve le merveilleux.
Oui, mais c'est très curieux parce que c'est un mélange des genres, des époques. On pourrait penser que ça peut se heurter et apparemment, d'après ce que je vois sur les photos, pas du tout, hein.
Non, le mariage est parfaitement réussi entre le patrimoine et l'œuvre d'art contemporain. Oui. Bon, il n'y a pas de fausse note.
non, mais ça mérite de rester un certain temps pour l'extérieur de la cathédrale dont on a parlé et pour l'intérieur aussi, quoi. Moi, je dirais qu'il faut passer quelques heures pour regarder tout ça.
Tout à fait. La visite du trésor, on l'estime à peu près une heure et quart pour pouvoir vraiment s'imprégner. C'est une visite guidée, s'imprégner dans des différentes pièces.
Oui, il faut l'ajouter, ça. C'est une visite guidée, bien sûr.
Oui, c'est une visite guidée qui permet de comprendre le lien justement avec la cathédrale, le lien avec ce patrimoine et cette œuvre d'art contemporain, donc signée par un artiste reconnu internationalement.
On ne sait pas tant qu'on n'est pas rentré dans la cathédrale en question. Merci beaucoup Laetitia pour la visite. Je vous souhaite une bonne fin de matinée. Au revoir.
Au revoir William, merci.
Alors comment peut-on se rendre dans cette cathédrale? Direction Angoulême, point final.
Alors c'est ouvert, la cathédrale est ouverte tous les jours de 9h à 17h et le trésor se visite du jeudi au dimanche après-midi pour 5€. C'est une visite guidée, il faut s'inscrire auprès de l'office de tourisme d'Angoulême. Nous mettons toutes les informations.
Oui, parce qu'on ne peut pas rentrer à plusieurs dizaines dans la cathédrale en même temps.
Bon. Exactement, pas plus de 25 personnes à la fois.
25, okay.
Et pour prendre rendez-vous avec l'office de tourisme, nous mettons toutes les informations sur europe1.fr.
Alors pour dormir à Angoulême, si on le souhaite.
Alors, j'ai une adresse. Je suis là pour ça. Les chambres d'hôtes du Champfleury. C'est joli, non ? Bien sûr, il y a un joli jardin avec ce beau nom. C'est une des plus belles vues sur Angoulême, bien sûr, dans un très, très beau cadre. Les chambres en pierre avec des poutres sont hyper confortables, très charmantes. C'est 75 euros à partir de 75 euros la nuit. Et là, encore une fois, nous mettons tous les coordonnées.
Et si vous aimez la BD, il y a plein de choses à voir à Angoulême, évidemment, aussi. Entendu. En plus, donc si vous êtes là-bas, restez-y.
Et puis, il y a les murs peints à Angoulême. C'est une espèce de street art un peu. Ouais. C'est vraiment très beau. C'est vraiment, on est dans l'art. À Angoulême, c'est l'art.
11h midi sur Europe 1. Samedi en France. William Lémergie.
Eh bien oui, nous sommes là, toute l'équipe de Samedi en France. C'est à 11h désormais sur Europe 1 pendant toute cette période de vacances. Alors, maintenant, un site qui rend hommage après le site insolite. Voici le site du savoir-faire français. S'il vous plaît, c'est toujours en France. Hein. C'est une vache très célèbre qui va vous inviter à découvrir la fabrication de son fromage. Et si je vous dis que cette vache est rouge, qu'elle peut tirer la langue et qu'elle rigole, vous me répondez la vache qui rit.
Pour être un grand nom du fromage et plaire à tout le monde, il faut avoir une sacrée personnalité. La vache qui rit, le fromage à part.
Fromage à part, jeu de mots, vous l'avez compris. Alors, c'est l'artiste Benjamin Rabier qui a dessiné son portrait. Alors, qui est-elle ? D'où vient-elle ? Qu'est-ce qu'on peut voir dans les ateliers de cette entreprise ? Parce qu'évidemment, il faut la visiter, nous sommes là pour ça. Ce sont toutes les questions que l'on va poser à notre guide gourmand du Routard, c'est Gavin Clémenté-Russe qui nous accompagne chaque samedi dans cette émission. Et première question, où se situe l'usine, Gavin ?
Eh bien, William, il faut se rendre à Lons-le-Saunier, c'est dans le département du Jura, et c'est là qu'on découvre la fameuse maison de la vache qui rit. Parce qu'elle a une maison. Hein.
Oui, mais tout part de là ?
Oui, tout part de là, presque. L'histoire remonte au fond. Fondateur, c'est Jules Bell. Ça a donné Baby Bell. Hein.
Baby Bell, oui, bien sûr.
Ça vient de là aussi. Jules, qui était à l'origine maître affineur, quand il s'est établi d'abord à Orgelet, pas très loin. Puis l'entreprise s'installe en 1897 à Lons-le-Saunier, parce que juste à côté, il y a la première ligne de chemin de fer. Et c'est utile. Et c'est le fils de Jules, plus tard, Léon Bell, qui prend la suite. Et la Première Guerre mondiale va passer par là.
Parce que est-ce que c'est pendant la guerre que le fameux logo de la vache qui rit ou qui sourit trouve son origine ?
Oui, c'est là que ça devient intéressant et rigolo et bien aussi. En fait, Léon Bell, il s'occupait à l'époque des convoiements de ravitaillement. Et parmi ceux-ci, celui du RVF. RVF, c'est ravitaillement en viande fraîche.
Ah oui, ils convoient de la viande, quoi.
Ouais, et le lieutenant du RVF va faire appel à Benjamin Rabier, le célèbre illustrateur français spécialisé dans le dessin animalier, pour créer un emblème à apposer sur les véhicules.
Ah oui.
Et Benjamin Rabier va envoyer un bœuf souriant. Et c'est de là que viendrait l'idée de la vache.
Oui, il a inventé un logo. Quoi.
Oui, c'est ça.
On lui a demandé ça, on dirait ça aujourd'hui. Bon, alors, après la guerre, le fameux Léon Bell développe le fromage fondu. Ce sont des Suisses qui ont mis la formule au point. Alors, c'est pratique, c'est économique et ça se transporte partout, même dans les pays tropicaux. Et c'est ce qui fait sa spécificité finalement, non ?
Ah oui, moi ça m'a sauvé la vie dans pas mal de pays parce que c'est vrai que c'est pratique, ça se garde au contraire, ça se met pas au frigo. Vous pouvez le laisser comme ça et vous en trouvez partout dans le monde.
Ça se met pas au frigo du tout ?
Non, vous pouvez le trouver en Afrique, vous pouvez le trouver à Madagascar, je l'ai vu en Inde, il y en a beaucoup, en Asie, partout, vous pouvez trouver la vache qui rit et c'est ça qui est vraiment pratique et c'est là aujourd'hui qu'on va aller visiter son ancien site de production.
Alors bien sûr, ça mérite d'en savoir un peu plus. Alors, nous sommes en ligne avec Judith Dos Santos qui est responsable des publics. Je trouve que c'est une très bonne expression ça, de dire au lieu de dire responsable de la communication, responsable des publics. C'est joli, non ? À la maison de la vache qui rit. Bonjour Julie.
Bonjour William, bonjour Gavin.
Bonjour.
Non, c'est bien ça, le coup de responsable des publics. C'est une très bonne idée, ça. Alors, vous avez construit un très joli musée moderne. Il est rouge et blanc, je suppose, comme les boîtes de vache qui rit.
Oui, tout à fait, exactement. Dès l'entrée, on aperçoit les couleurs emblématiques de la marque. On sait tout de suite où on se trouve.
Alors, il faut expliquer quand même que c'est l'une des réussites industrielles les plus étonnantes en France au XXe siècle. C'est étonnant sur le plan technique, sur le plan de la communication. Le produit, il est original, on vient de le dire avec Gavins. Mais la façon de le promouvoir, on a entendu une publicité, il y en a eu beaucoup, elles étaient toutes très originales. Et est-ce qu'on retrouve plusieurs versions du dessin de Benjamin Rabier à travers le temps ?
Alors oui, tout à fait. Tout débute avec l'emblème, comme vous le disiez, qui était apposé sur les camions du RVF. Donc on aperçoit ce fameux emblème. Mmh. On aperçoit également le dessin original que fera Benjamin Rabier à la demande de Léon Bell pour dessiner la première vache qui rit, inspirée de cet emblème du RVF. Ensuite, on va découvrir l'évolution de ce logo qui a été retravaillé par d'autres illustrateurs.
Ah bon ?
Sur l'idée de Benjamin Rabier, ce logo va petit à petit évoluer au fil des années, au fil des décennies, pour se mettre au goût du jour,
oui,
pour obtenir
ça.
Le logo qu'on a aujourd'hui.
Oui, oui, c'est-à-dire qu'ils ont eu la bonne idée de le moderniser au fil des années. C'est pas bête du tout, ça. Et on dit que la vache qui rit, ça serait la déformation de... Valkyrie, Vache-Kyrie, vous savez, quand les soldats français voulaient se moquer des Allemands. Est-ce que c'est vrai, cette histoire ?
Eh bien oui, c'est vrai, tout à fait. En fait, l'emblème du RVF a été très rapidement pris en main, on va dire, par les soldats de la Première Guerre mondiale. Et les soldats avaient pour habitude de se faire une blague. Ils avaient l'habitude de dire « Les Allemands ont les Valkyries et nous avons la Vache-Kyrie ». Et à l'époque, ils l'écrivaient à la sauce allemande, si on peut dire. Ils l'écrivaient en un mot, W-A-C-H-K-Y-R-I-E, en pied de nez, voilà, en pied de nez aux Valkyries.
D'accord. À l'origine, Jules, de la famille Bell, il travaillait le gruyère et les fromages à pâte dure des fruitières locales. Quoi. C'est l'équivalent des coopératives. Alors aujourd'hui, avec quoi on fabrique la vache qui rit ?
Alors aujourd'hui, la recette de la vache qui rit est très simple. Il faut quatre ingrédients d'origine laitière, du lait, des fromages, du beurre et les minéraux du lait.
Ah oui, mais c'est une opération d'origine contrôlée, tout ça.
Alors, pas tout à fait,
Oh.
Mais en tout cas, on est les seuls aujourd'hui à proposer une recette très simple à partir de 4 ingrédients seulement et sans arôme artificiel, sans conservateur.
Oui, mais enfin, il est extrêmement rare, voire totalement impossible, que l'on puisse manger en France une vache qui rit qui nous vient, d'Afghanistan ou du Mexique.
Ah non, bien sûr. Toutes les vaches qui rit que vous consommez en France, et c'est le cas aussi pour certains pays limitrophes comme la Suisse, par exemple, vient forcément de l'atelier de production de Lons-le-Saunier ou de Dole.
Bon, alors justement, quand on visite l'atelier de production, là, on voit comment ça se passe, on voit les outils, on nous explique.
Alors, petite subtilité, on ne visite pas l'usine, hein, pour des raisons de sécurité et d'hygiène. L'usine ne se visite pas, c'est la maison de la vache qui rit qui se visite.
Comme une sorte de musée, quoi.
Oui, c'est ça, c'est le musée qui est dédié à la marque.
Qui raconte l'histoire, d'accord.
Exact. On est installé sur le premier site de production. Les vaches qui rit se fabriquaient ici en 1921 jusqu'en 1924, lorsque Léon Bell va ouvrir une usine plus moderne et plus grande, toujours à Lons-le-Saunier par contre. Et donc à la maison de la vache qui rit, on découvre les visuels et une machine des années 50. Et on vous donne à voir également la fabrication avec un film d'animation qui explique clairement chaque étape de production. Et c'est accompagné par une maquette qui est très fidèle à ce qu'on peut trouver à l'usine.
D'accord. Est-ce que, comme le disait Gavin il y a un instant, l'une des raisons du succès de ce produit-là, de ce fromage, c'est sa capacité, entre autres, à résister à la chaleur. C'est vrai ? C'est pour ça que ça marche dans le monde entier ?
Bien sûr, oui, c'est une des raisons principales, parce que du coup, dans certains pays qui ont du mal à garantir la chaîne du froid, la vache qui rit devient le produit laitier sain, sûr et accessible à tous.
Je trouve que la façon d'ouvrir la boîte avec ce petit fil rouge, c'est une idée de génie. Je ne sais pas qui a le brevet de ça, mais qu'est-ce que c'est malin, franchement. Hein. vous faites des animations aussi ?
Oui, tout à fait. À la Maison de la Vache qui rit, notamment sur les périodes de vacances scolaires, on propose de nombreuses animations à partager en famille. Cet été d'ailleurs, ça sera les mardis, mercredis et jeudis.
Oui.
Le programme se trouve en ligne sur notre site internet. Et on propose notamment des ateliers cuisine, parce que la Maison de la Vache qui rit est équipée d'un atelier cuisine où on peut cuisiner en famille des recettes à partir de vaches qui rit.
Est-ce que le goût de cette pâte-là a un peu évolué au fil des années, ou c'est toujours le même goût depuis le début de l'histoire de la marque ?
Alors, depuis le début de l'histoire de la marque, j'imagine. Alors, je n'étais pas présente il y a 100 ans, mais.
Non, oui, moi oui, coup... mais vous, non.
Dites-nous, William.
J'imagine que le goût a effectivement changé, parce que les matières premières ont sûr. Également changé. Et notamment, là, sur les dernières années, la recette a légèrement évolué avec cette innovation depuis l'année précédente. En 2021, on a proposé une recette avec du lait frais. Qui apporte du coup un côté beaucoup plus lacté que la version précédente.
D'accord. Alors, à remarquer, mais vous êtes au courant, la vache qui rit, c'est la seule vache à ma connaissance, et Dieu sait si j'en connais, qui montre ses dents du haut.
Non,
elle
est,
oui, ça, habituellement, les vaches qui sourient en regardant les trains, on fait les dents du haut.
Et là, c'est ça en Normandie.
Hein,
ouais.
C'est surtout la seule vache rouge qui rit et qui porte des boucles d'oreilles.
Oui, c'est vrai qu'elle a des boucles d'oreilles. Ah ouais, mais elle porte des boucles d'oreilles. Ce qui est bien, c'est qu'elle ne fait pas ça que quand elle va au bal. Elle porte des boucles d'oreilles tout le temps.
Je confirme.
Merci Julie pour toutes ces explications. Je vous souhaite une bonne fin de matinée. Au revoir.
Merci à vous, à bientôt.
À bientôt. Alors comment on fait donc pour visiter ce musée de la vache qui rit ? Je rappelle que nous sommes à Lons-le-Saunier.
Eh bien, en juillet et août, William, c'est ouvert tous les jours sans interruption de 9h à 19h. Ça coûte 8,50€ pour les adultes et pour les enfants de 6 à 18 ans, c'est 6€. Si vous le souhaitez, il y a un pack famille, 2 adultes, 2 enfants, 25€. Et vous pourrez ramener plein de souvenirs.
C'est ça que je voulais savoir.
Il y a des mugs, il y a des... je vais tout vous dire, j'ai des chaussettes vache qui rit au pied là. C'est vraiment très beau.
La chaussette vache qui rit ?
Ouais, la chaussette vache qui rit, c'est le summum du chic pour l'été, je pense.
Il n'y a pas encore des sous-vêtements masqués, mais enfin,
on peut soumettre l'idée.
Ça serait joli, ça, une vache qui rigole. à part ça, si on veut rester dans le coin...
Je suis juste en train d'imaginer où est-ce qu'on mettrait le logo. Oui. Mais bon, passons. On peut dormir dans le coin, William. Oui, bien sûr, on va aller dormir au Terminus. Et c'est où ? Eh ben, c'est en face de la gare de Lons-le-Saunier, bien entendu. Avec une belle façade jaune, les auvents rouges, comme la vache qui rit, et un charme belle époque. Vous avez c'est dans la salle du petit-déj, vous verrez le matin. C'est plus contemporain quand même dans les chambres. Et là, c'est à partir de 42€ pour deux personnes pour la nuit. Donc ça, c'est correct.
Je précise que si vous découvrez cette émission, c'est parce que cet été, nous serons là dans Samedi en France, tous les samedis matin à partir de 11h. Mais on vous donne aussi, non seulement le site, mais où et quoi faire autour du site en question. C'est le cas maintenant. Alors, autre chose, c'est une séquence intitulée « La France de mon enfance ». C'est une façon aussi de raconter la France à travers les souvenirs de notre invité. Là, aujourd'hui, c'est un membre du groupe corse Imouvrini qui... alors, vous savez, Imouvrini, c'est la modernité, mais aussi la tradition corse. Ça a été créé par les frères Bernardini et au micro de Daniel Moreau, Jean-François Bernardini, qui va vous emmener à travers les ruelles du charmant village de Taglio Isolaccio, là où tout a commencé finalement.
Samedi en France sur Europe 1.
Bonjour Jean-François Bernardini.
Bonjour à vous, bonjour Europe 1.
Alors évidemment, quand on pense à votre groupe Imouvrini, on pense aux frères Bernardini, vous et Alain, et à la Corse. Vous êtes originaire d'un petit village de Haute-Corse qui s'appelle Taglio Isolaccio. Alors je ferme les yeux et emmenez-moi dans les ruelles de ce village.
Taglio Isolaccio, un petit village. Vous savez, j'ai dit quelques fois que les villages sont les châteaux de la Corse. Et la Corse a la chance d'en avoir des centaines qui ont tous leur diversité et qui en même temps ont tous une sorte d'unité de pierre grise et d'ardoise. Unité d'être d'un peuple qui a l'habitude d'habiter les pentes. Unité d'un peuple qui a construit ses villages très souvent sur des rocs, là où les fondations étaient déjà sûres. Et puis unité de faire cela dans ce manteau vert qui est celui de la Corse montagneuse. Quoi. La Corse est une montagne dans la mer. Donc mon petit village est en fait un petit village avec deux hameaux qui se situent dans le nord de la Corse, au nord-est de la Corse, pas très très loin de Bastia, une quarantaine de kilomètres. Et donc c'est un village... un village de, comme tous les villages de Corse, ou un village de paysans, un village qui est situé face à la mer, un village où il y avait encore il y a quelques années une école, une épicerie que tenait ma mère, deux bars, de quoi manger dans de nombreuses familles, même s'il n'y avait pas vraiment de restaurant, une église une église qui est un petit peu le centre et le cœur battant du village, avec un clocher qui est détaché de ça. Un village qui est aussi habité par des hommes, des femmes, des enfants, deux écoles primaires, et puis aussi un village où les hommes et les femmes vivent avec leurs compagnons de route, que sont les animaux, quoi. Mmh. Et dans les anciennes maisons corses, vous savez que les animaux étaient logés au rez-de-chaussée. On ne fermait pas la porte sans avoir d'abord vérifié que tous les animaux étaient rentrés. Et cet attachement, ce lien-là aux animaux, qui a donné lieu d'ailleurs dans l'oraliture de la Corse de très très belles chansons pour la mort d'un chien ou pour la mort d'un âne, etc., sont partie prenante de cette vie collective où la mutualité est au centre, où la coopération est au centre, où la solidarité est au centre. Personnellement, j'y ai appris des choses qui sont de ma colonne vertébrale. Entendre, voir incarné par des gestes « je vais mieux quand tout le monde va mieux », je vous jure, ça vous donne un certain regard sur le monde et l'humanité. Et entendre dire par ma mère, comme d'ailleurs ça se faisait souvent dans beaucoup de familles, à une cliente qui était à bout de son petit budget mensuel, dire « mais vous paierez quand vous pourrez ». Ce sont des choses qui témoignent d'une confiance qui est consubstantielle à ces communautés-là.
Alors si on veut découvrir cette âme corse, il faut évidemment écouter Più Forti. C'est un album qui hume l'air du temps. Il y a des chansons en corse et en français à découvrir sans modération. Merci beaucoup Jean-François Bernardini.
Je vous remercie beaucoup. Merci Europe 1. À Béji.
C'est bien, vous mettrez ça, vous paierez quand vous voudrez, ou alors c'était vous mettrez ça sur mon compte, mais oui monsieur Gavitz, pas de problème, on mettra ça sur votre compte. Merci à Daniel Moreau, merci à Jean-François Bernardini.
11h midi sur Europe 1, samedi en France. William Lémergie.
Alors voici maintenant un site pour terminer dont vous n'avez peut-être pas, hélas, entendu parler. Eh ben, on est là pour ça, figurez-vous. Et qui mérite votre attention si vous passez par là. Direction Albi pour visiter le palais de la Berbie qui abrite aujourd'hui le musée consacré à l'enfant du pays, un des enfants du pays, un des plus célèbres sans doute, Toulouse-Lautrec. Alors vous me direz, bon, on va voir un musée, alors un musée sur un peintre célèbre. Oui, mais attendez, parce que cette année, si on s'y arrête, c'est pas pour rien. Il se passe quelque chose de particulier, on ne va pas visiter que le musée, mais aussi les jardins, et d'une manière originale, c'est-à-dire la nuit. Alors pour nous en dire plus, notre guide à nous, Gavins Clément-Terruiz du Routard, notre peintre en chef, hein, d'abord. Albi, ça se situe où? Comment on y va?
Alors, Albi, la rouge, hey, c'est la couleur, comme on la surnomme, à cause de la couleur de sa brique, sa pierre.
Ça n'a rien à voir avec la rouge, comme... politiquement.
Non, je crois pas. Non. C'est situé dans le Tarn, on est à une heure de route de Toulouse, et c'est là qu'est né en 1864 un certain Henri de Toulouse-Lautrec. Mm-hmm. Alors, c'est là où on retrouve aussi le rouge, hein. C'est le peintre de la Belle Époque, oui. De Montmartre, les affiches de spectacles, le portrait d'Aristide Bruant que vous avez vu dans plein d'endroits, c'est le French Cancan, c'est le cirque aussi. C'était le peintre du cirque, j'aime bien ça. C'est une peinture très colorée qui a souvent été décriée à l'époque par les élites. Il le méprisait. D'ailleurs, à sa mort, le Louvre ne voudra même pas de ses œuvres pour le musée.
Oui, ils ont changé d'avis depuis et ils ont bien fait. D'ailleurs, on trouve pas mal de ses œuvres à Albi, la ville natale.
Oh oui, c'est son ami Maurice Joyant qui proposa à son décès de donner son œuvre au musée d'Albi qui est installé dans le palais de la Berbie.
Berbie, c'est
Berbie, ça veut dire évêché en occitan.
Ah. Très bien, parce que vous parlez aussi...
Carrément.
Enfin, bien. Et cette année, on fête les 100 ans du musée Toulouse-Lautrec, mais alors, je disais tout à l'heure, pas de n'importe quelle manière, c'est une manière très, très, très originale.
Très originale, en effet. La ville d'Albi organise tout l'été, jusqu'au 4 septembre, une balade lumineuse. Alors c'est quoi? C'est un parcours immersif, ça aussi c'est très à la mode, hein. Parcours immersif, on se plonge dans les jardins du musée avec comme décor le Montmartre de la Belle Époque, et on va traverser les œuvres de Toulouse-Lautrec.
Oui, mais c'est reconstitué avec les couleurs aussi. Alors, vous avez compris, c'est le soir, c'est plutôt bien, il fait moins chaud, c'est l'idéal pour faire une balade. Pour en savoir plus, nous sommes en ligne avec Stéphanie Guiraud-Chomeil, qui est la maire d'Albi. Bonjour, madame la maire.
Bonjour, messieurs.
Bonjour.
Alors, expliquez-nous, pour qu'on comprenne bien la façon dont vous avez organisé cette promenade nocturne, il faut expliquer comment sont montrées les œuvres et puis à quelle heure ça se passe.
Alors oui, effectivement, on fête cette année un double centenaire. Le centenaire du musée et le centenaire de la donation. Parce que vous l'avez rappelé, quand Lautrec est mort, les Parisiens n'ont pas voulu de son œuvre, mais le maire d'Albi de l'époque a accepté la donation de la famille et de Joyan. Et résultat, la ville d'Albi a 1000 œuvres de Lautrec. Donc, on ne les verra pas toutes, mais vous pouvez bien évidemment, avant d'aller faire la balade lumineuse dans les jardins, aller admirer dans le musée Toulouse-Lautrec, parce qu'au-delà d'être un musée, il y a des œuvres, vous pouvez aller admirer dans le musée toutes ces œuvres, et notamment admirer une expo temporaire qu'on consacre aussi au centenaire du musée, une expo temporaire qui s'appelle « Quand Lautrec regarde Degas ». Parce qu'il y avait une attention très particulière entre ces deux monstres sacrés de la peinture 19e, et le musée d'Orsay a particulièrement joué le jeu pour l'anniversaire de Lautrec, du musée Toulouse-Lautrec, et donc nous avons une très belle expo temporaire. Parce que finalement, c'est aussi ça la balade lumineuse dont on va parler.
Ouais.
C'est la question qu'on s'est posée en Albigeois, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire plaisir à Lautrec pour le 100e anniversaire de son musée ?
C'était ça la question ?
Bien sûr, on veut faire plaisir à ceux auxquels on est attaché, comme toujours. Et on s'est dit, mais finalement, quoi de mieux que de refaire revivre le monde des cabarets auquel il était tellement attaché, de le faire vivre dans un jardin remarquable, dans un palais au milieu de l'inscription sur la liste du patrimoine mondial, parce que là, vous êtes en plein univers de l'UNESCO. Vous êtes dans un site qui est visité par 1,3 million de personnes par an. Et le résultat, on s'est dit, mais finalement, on va replonger dans les nuits, alors pas la totalité de la nuit de Montmartre, mais en tout cas, on va redonner aux Albigeois et aux visiteurs une petite idée de ce que pouvait être le Montmartre de l'Autriche.
Madame la maire, pour expliquer ça, c'est qu'il y a des projections donc sur les murs dans ce jardin.
Exactement.
Et alors, on retrouve, là, j'aperçois le Moulin Rouge, et tout ça est en couleur, et évidemment, ça se passe la nuit, et tout est en plein air, là.
Exactement, tout est en plein air, tout est en couleur, tout est en musique, ça va pétiller, ça va être à l'image de Lautrec. Mmh. Vous savez, Albi a une tradition maintenant de projection lumineuse la nuit. On a beaucoup de mapping l'hiver sur la cathédrale, et quel plus beau site de projection que la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi. Et donc cette année, pour l'anniversaire de Lautrec, on a innové et on va se balader de manière un petit peu plus intimiste dans les jardins du palais, le palais qui abrite le musée, et ce sera une balade d'une quarantaine de minutes en lumière, en musique, et on va passer de tableau en tableau finalement autour de ce qu'affectionnait Lautrec, le Moulin Rouge bien sûr, le cirque, l'ensemble de ce qui a pu faire la vie de Lautrec à Paris, puisque si Lautrec est né à Albi, il a quand même passé une grande partie de sa vie à Paris, et c'est cette villa qu'on connaît et qu'on a envie de mettre en avant aussi à Albi cet été.
Mais c'est vous à Albi qui avez le plus grand nombre d'œuvres signées de Toulouse-Lautrec ?
On a la plus grande collection publique au monde, je vous dis 1000 œuvres. Et quand Lautrec a été au Grand Palais en 2019 pour la rétrospective qui lui a été consacrée, le musée d'Albi était le plus gros prêteur en quantité et en qualité des œuvres. Ouais. Et donc, tous ceux qui n'ont pas pu voir toutes les œuvres de Lautrec au Grand Palais, surtout n'hésitez pas. Et du coup, passez l'après-midi au Palais, visitez la cathédrale Sainte-Cécile, passez une petite nuit à Albi, parce qu'après tout, vous verrez, quand on découvre Albi, on ne peut plus la quitter. Et le lendemain, un petit tour en gabarre sur le Tarn.
Vous ne seriez pas maire d'Albi.
Madame la maire, elle connaît tout. Elle va vous donner le prix du menu du bistrot d'à côté. Elle connaît tout, là-bas, madame.
Non, mais il n'y a pas qu'un bistrot à côté. Il n'y a jamais qu'un seul menu, tellement on a des produits authentiques de qualité, des produits locaux. Non, on est vraiment dans le sud-ouest, c'est la qualité de vie, c'est la qualité de l'accueil, c'est la chaleur dans la journée à certains moments, mais c'est la douceur des nuits et des soirées albigeoises. Donc vraiment, et d'ailleurs, vous deux, si vous ne connaissez pas le musée, on compte sur vous pour venir nous rendre visite cet été.
Vous savez, madame la maire, on ne fait pas ça par hasard, hein. C'est pour avoir des billets gratos pour y aller.
Vous êtes de grands professionnels, vous les aurez bien sûr.
Mais dites-moi, est-ce que, madame la maire, pour terminer, est-ce qu'il y a encore des descendants de la famille Toulouse-Lautrec qui sont vivants ou qui habitent dans le coin ?
Oui, bien évidemment, c'est une famille importante. La donation, d'ailleurs, a été faite par une partie de la famille paternelle, une partie de la famille maternelle, par l'ensemble des amis de Lautrec.
D'accord.
Et il y a bien évidemment un certain nombre de descendants, et notamment Bertrand Duvigneau a encore la maison familiale à Albi.
Ah bon ?
Il est dans le conseil d'administration du musée Toulouse-Lautrec, mais d'autres descendants sont présents, et bien évidemment, on est très attentif aussi à les associer à la collection,
bien
à la vie de la collection et à cet anniversaire, parce que sans eux, très objectivement, on n'aurait pas une telle chance, on n'aurait pas une telle collection.
Merci beaucoup Stéphanie Guiraud-Chauvet, Madame la maire. Je vous souhaite une bonne fin de matinée. Au revoir. Merci encore.
Merci à vous aussi. À très bientôt, Albi. Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Alors, Gavitz, les tarifs, les horaires pour cette promenade nocturne et puis pour aller au musée aussi, bien sûr.
Eh bien oui, jusqu'au 31 juillet, de 22h à minuit, du 1er août au 4 septembre, de 21h30 à minuit. Les billets sont en vente le soir même du spectacle, sur place, en journée à l'office de tourisme d'Albi. On avait compris qu'on était à Albi. Et ça coûte 5 euros pour un adulte.
Oui,
et
oui.
On met toutes les informations sur Europe 1.Albi.
On est
sur
Europe1.fr, hein.
Pas sur Europe1.Albi. Enfin, quoique, là, on est presque.
Ça dure combien de temps, la balade?
Moi, 40 minutes environ, à peu près.
Non. Ouais. Et une spécialité à Albi?
J'hésitais entre le pastel et le foie gras, et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai choisi le foie gras. Mm-hmm. Alors le foie gras, c'est Albi foie gras, une maison familiale.
Ça s'appelle comme ça?
Ouais, Albi avec un Y cette fois. C'est amusant, c'est une petite touche. Une maison familiale où on peut retrouver, bien sûr, le foie gras, mais aussi les gésiers, les magrets, les confits. Bref, c'est parfait pour faire le plein pour l'été ou pour les nuits d'hiver.
Voilà pour la balade de plein air pour cet été, mais vous pouvez faire ça à l'automne aussi, au printemps, ça marche également. On fait ça habituellement dans chaque émission et on termine avec ça. Un récapitulatif, attendez, des sites qu'on vous a fait visiter aujourd'hui, vous pourrez peut-être vous rendre cet été. Allons-y.
Alors, on est allé au refuge de Grand Plan, c'est en Savoie, et là on a passé une soirée népalaise mémorable.
Petite musique, repas, tout.
Avec le dalbat, on a appris, hein, parce que c'était des lentilles et du riz. En Charente, on
épicé.
Est allé... assez épicé, mais modéré, hein, les épices sont à côté. En Charente, on est allé à Angoulême, nous avons découvert le trésor de la cathédrale Saint-Pierre décoré par l'artiste contemporain Jean-Michel Autoniel lui-même. À Lons-le-Saunier, on a fait la visite du musée de la vache qui rit, de la maison de la vache qui rit qui célèbre cette pâte molle
délicieuse. Oui, mais enfin, savoir-faire français, il n'y a pas l'équivalent.
Que l'on retrouve partout dans
souvent,
le monde.
Souvent imité, jamais égalé.
Exactement. Et enfin, nous avons terminé à Albi, dans les jardins du palais de la Berbie. Et là, nous sommes plongés vraiment dans l'œuvre de Toulouse-Lautrec au cours d'une balade immersive, sonore, imagée et nocturne, William.
Je me demande si c'est pas Madame la maire qui doit faire le commentaire.
Je pense qu'on pourrait l'appeler pour savoir.
Bon, allez, pour finir, comme nous faisons à chaque fois un livre, un film, je ne sais pas. Tiens, soyons modernes, un compte Instagram qui a retenu notre attention et qui célèbre la France, bien sûr.
Ah bah j'ai presque tout ça, dis donc. C'est une expo. Ça se situe à la cité royale de Loche, en Touraine. C'est une expo qui s'intitule Agnès Sorel, l'influenceuse.
Ah non, ça c'est formidable.
Je trouve ça génial.
On
a collé ce mot très moderne des réseaux sociaux avec cette femme qui était la première favorite royale de l'histoire de France aux côtés de Charles VII, hein, ouais. Je vous rappelle, au XVe siècle. Alors, elle était décriée, mais elle fut très suivie comme les influenceuses aujourd'hui parce que c'était une femme de goût.
Ouais. Elle tenait salon.
Et elle a révolutionné la mode à l'époque avec des étoffes qu'elle faisait venir d'Orient, du Moyen-Orient. Elle a aussi révolutionné la cosmétique avec des produits naturels.
On disait des onguents.
Des onguents, c'est ça. Et donc, du logis royal jusqu'au donjon de la cité de Loche, on va découvrir des tableaux, des objets qui évoquent Agnès Sorel, des objets qui viennent du musée du Louvre, de la Monnaie de Paris, etc. Et tout ça est réuni à Loche. Il y a plein d'activités qui sont proposées autour de la favorite royale tout l'été. Il y a des conférences, des visites costumées. D'ailleurs, ça, c'est rigolo pour les plus jeunes. Et il y a un escape game. Ça aussi, on aime bien dans Samedi en France.
Escape game, oui. Enfin, un jeu d'aventure. Voilà.
C'est ça. Et on va essayer de répondre à la question, est-ce que Agnès Sorel a été empoisonné. C'est quand même une des questions dans l'histoire. Ça dure 30 minutes pour mener l'enquête, vous verrez, c'est à Loche. Et comme toute bonne influenceuse, eh bien Agnès Sorel, elle a son compte Instagram. Il faut aller voir. On met les infos sur Europe1.fr.
Incroyable. Première favorite royale de l'histoire.
Oui, c'est ça. Une influenceuse.
Charles VII, c'était son fiancé. On a tout dit là.
Oui.
Merci beaucoup. L'émission est terminée. Vivement samedi prochain. Merci à Marie-Jacques, à Christophe Pierrot, à Daniel Moreau, à Gavins Clément-Terruiz. On vous retrouve avec plaisir. Samedi prochain, alors, notez bien, c'est désormais à 11h sur Europe 1. Et pour partir à la découverte de 4 nouveaux sites en France, dans 4 régions différentes. Très bon week-end. Bonnes vacances si vous avez la chance d'y aller.